Alors aujourd'hui, je vais essentiellement prêcher sur le royaume de Dieu, à partir des paraboles. Merci. Le texte, un des textes du jour qui nous est proposé, se trouve dans l'évangile de Marc. Alors je n'ai pas pris que celui-là, je suis allé un peu plus loin, mais je vais vous les lire maintenant. C'est au chapitre 4, c'est la parabole du semeur, verset 1, je m'arrêterai au verset 15. Bon, pardon, 9, je commence à vieillir, et mes lunettes ne sont pas très adaptées. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla, si nombreuse, qui dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens, tournés vers le lac, se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandit sa semence, des graines tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas pris racine, ils se desséchèrent. D'autres graines tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Et Jésus d'ajouter, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et un peu plus loin, Marc 4, à partir du verset 26, Jésus disait aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme, ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé remplissent cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Il continua en disant, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter ? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. » Seigneur, ta parole est vérité. Conduis-nous sur le chemin de la vérité. Frères et sœurs, je suis sincèrement et réellement heureux de pouvoir prêcher aujourd'hui sur les paraboles du royaume de notre Seigneur et aussi par allusion sur d'autres paraboles qu'il a lui-même annoncées. Force est de constater, sans doute vous n'allez pas être étonné, force est de constater que l'évangile du royaume revient sans cesse dans la bouche de Jésus. Il est au cœur de son ministère, au cœur de son enseignement et au cœur de son évangile. Notre foi, notre espérance sont nourries de la promesse que nous sommes citoyens de ce royaume. Et néanmoins, notre compréhension de la réalité de ce royaume reste tout de même en partie un mystère pour nous. Quand les pharisiens demandent à Jésus « Quand donc vient le royaume de Dieu ?» Il leur répond « Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas « Le voici » ou « Le voilà ». En effet, le règne de Dieu est parmi nous. Ou autre traduction, et j'ai noté que tout à l'heure tu as employé les deux, autre traduction, au-dedans de nous ou au milieu de nous. Ce sont des expressions, des traductions qui divisent encore les théologiens, parce que de dire que le royaume de Dieu est dans nous ou en nous, ou de dire qu'il est au milieu de nous, ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Mais on peut se dire qu'il est à la fois en nous et au milieu de nous. C'est une façon de réconcilier l'ensemble. Ce serait d'ailleurs ma perception. Dans l'Ancien Testament, les choses étaient beaucoup plus simples. Pour Israël, la royauté appartient à Dieu seul. Dieu règne sur l'univers dont il est le créateur. Et il règne sur son peuple, au sein de l'histoire humaine, par l'intermédiaire de rois comme David. Donc, des royautés, en quelque sorte, semblables aux rois d'autres peuples. À cette époque, il faut se rappeler que pour les Juifs, il n'y avait aucune espérance d'une vie après la mort, ni d'un royaume autre que terrestre. Ce qui était primordial, ce qui était important, c'était d'avoir une descendance nombreuse afin de pouvoir assurer la survie de la tribu, de la famille, de la lignée, du peuple, en quelque sorte. Il faut se rappeler que du temps de Jésus, les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Avec Jésus, la notion de royaume de Dieu prend une toute autre dimension et on ne trouve rien dans l'évangile, dans les évangiles, qui laisserait supposer que Jésus aurait eu une quelconque ambition d'une royauté terrestre semblable aux autres rois de ce monde. C'est ainsi que l'on peut lire, par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 15, « Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau seul dans la montagne. » Et quand Jésus dit « Ma royauté n'est pas de ce monde », si ma royauté était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré, on comprend bien donc que sa royauté et son royaume n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons des royaumes terrestres. Et pour essayer de nous faire comprendre ce que c'est que son royaume, Jésus utilise la parabole. Il y a 7 paraboles. Certaines se répètent en fonction des évangiles, mais ce sont des paraboles identiques, à quelques peut-être différences près. 7 paraboles concernent directement le royaume de Dieu et plusieurs autres y font indirectement référence. Alors pourquoi des paraboles ? Une parabole, c'est un chemin détourné pour arriver à l'essentiel. C'est une histoire pour faire comprendre quelque chose à quoi nous n'avons pas directement accès par le raisonnement, par la spéculation, par le cerveau, si vous voulez, mais seulement par la sensibilité, par l'expérience. Par l'imagination aussi. La parabole est colorée, concrète, visuelle, tout à l'opposé du raisonnement abstrait. Et Jésus connaît très bien ce procédé pour rendre accessibles des vérités spirituelles en prenant des comparaisons avec des exemples dans le monde matériel et dans la vie de tous les jours. Et Jésus utilise beaucoup de paraboles. Il admet ainsi une analogie profonde entre le monde de l'esprit et le monde de la nature, analogie en vertu de laquelle ce qui est connu de celui-ci, de l'esprit et de la nature, pardon, permet de comprendre ce qui est affirmé de celui-là. Et Jésus utilise cet outil abondamment, comme cela est mentionné par exemple dans l'évangile de Marc, quand il dit « Par de nombreuses paraboles de ce genre, Jésus annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. » Jésus parle en paraboles de façon pédagogique pour toucher notre cœur afin de concrétiser ou d'essayer de concrétiser sa mission qui est de mener chacun de nous vers Dieu et chacun de ses interlocuteurs de l'époque. Jésus parle du royaume de Dieu sans jamais l'expliquer ou le définir. Il en parle tout en gardant le silence sur sa réalité ultime. Dans l'enseignement de notre Seigneur, le royaume demeure finalement une réalité mystérieuse dont Jésus seul connaît la véritable nature. Mais il cherche à susciter en chacun de nous l'imagination, l'émotion et le désir, voire la crainte ou le repentir ou la confiance. Ainsi, il nous interpelle et nous fait réfléchir d'une façon qui n'est pas de l'ordre de la raison ou de l'explication de texte, mais qui touche quelque chose qui est plus profond en nous, notre cœur. Le fait central, néanmoins, est qu'avec Jésus, nous avons la certitude que le royaume s'est approché. C'est une intervention de Dieu dans l'histoire. Mais il est venu sans se faire remarquer, sans tapage. Il est venu comme une graine qui doit germer, une plante qui doit éclore, qui doit pousser. Au fond, Jésus est là. Il nous fait désirer le royaume de Dieu. Il donne des images pour nous faire pressentir quelque chose que l'on devine plus qu'on ne le sait. Et il invite chacun de nous, chacune, à se déterminer. En fait, la parabole finit par faire sens quand elle nourrit notre esprit, quand elle lui offre un repère pour s'orienter. Lorsqu'elle joue un rôle dans le choix de nos actions, dans le choix de notre attitude dans le monde, pour les responsabilités que nous allons prendre ou que nous devons prendre. Suis-je la bonne terre? Quel est mon trésor? Est-ce que j'ai mis la main à la charrue et je me suis retourné? Qu'ai-je fait des dons que le Seigneur m'a donnés? Toutes les paraboles sont là pour nous faire revenir sur nous-mêmes, mais aussi sur ce que nous pouvons espérer et sur ce que nous pouvons ou devons faire de notre vie. Elle nous place face à nos responsabilités. Elle nous rappelle aussi que nous sommes invités à regarder le monde qui nous entoure par le biais de la grâce de notre Seigneur, toujours donnée, toujours renouvelée. Voilà ce qui est semé dans le cœur de l'être humain et qui parle à chacun, à chacune, là où nous sommes. Ce que j'entends de ces paraboles aujourd'hui, c'est que tout est don. Si j'accueille la semence, si je la mets en terre, d'elle-même, elle donnera du fruit. Cela me sera donné. Et c'est aussi une image de confiance pour dire que Dieu est fidèle et qu'il espère toujours en l'être humain. Enfin, la petite graine du royaume plantée là par Dieu a en elle-même son propre principe de croissance. Force intime et irrésistible qui l'amènera à l'accomplissement, comme la levure fera monter la pâte. Et Paul avait bien appris la leçon de la parabole, puisqu'il peut dire « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné la croissance. » Oui, que l'homme dorme ou se lève, la plante grandit. Dieu est maître de la vie biologique et de notre vie spirituelle. Ainsi, l'ivraie poussera, mêlée au bon grain, jusqu'au temps de la moisson, et le filet jeté au loin par les pêcheurs d'hommes en ramènera certains qui s'avéreront indignes du royaume. Le règne de Dieu s'est approché en Jésus-Christ et par la foi et la grâce de Dieu, nous participons nous-mêmes déjà à ce règne. C'est ce que les théologiens expriment dans cette formule du « déjà là et pas encore ». Le royaume de Dieu est déjà là, mais il n'est pas encore dans sa plénitude. Il est déjà là, mais pas encore dans sa pleine maturité. Et il ne se réalisera en plénitude que sous de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. C'est une citation de l'épître de Pierre. C'est pourquoi, d'ailleurs, en priant le Notre Père, nous disons encore « que ton règne vienne ». Par la foi, nous participons déjà au règne de Dieu, mais nous ne sommes pas encore dans son royaume. Ou alors on pourrait dire ce qui était chanté tout à l'heure, que d'une certaine façon, nous constituons le royaume de Dieu. Pour le moment, il n'est pas dans sa plénitude, mais nous en sommes un prémisse. Et ce qui compte pour nous tous, c'est de marcher vers cette plénitude qui sera le règne et le royaume définitif de Dieu. Vous le savez, le chemin, et nous le savons, le chemin pour y parvenir, c'est Jésus-Christ et son enseignement. À nous de le suivre dans la foi, l'espérance et la charité. Dans le royaume, nous serons en pleine communion avec notre Seigneur. Un royaume spirituel, nous dit Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer un lieu où vous serez. En une brève affirmation, tout au début de son évangile, Marc donne le ton de la première prédication de Jésus en Galilée. Les temps sont accomplis et le règne de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen.